de Julien Freud. Nous sommes en 1965 à la Sorbonne. Julien Freud soutient sa thèse de doctorat et il a pour président de jury Jean Hippolyte, un grand philosophe qui était connu pour ses idées pacifistes. Et Jean Hippolyte l'interpelle très mécontent du fait qu'il ait utilisé à un moment dans la thèse la philosophie de Carl Schmitt, du fait de la politique, un combat entre guillemets, ennemis et ennemis, amis et ennemis. Et voilà la réplique de Julien Freud. Vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. Il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Interloqué et un peu secoué, Jean-Hippolyte lui réplique « Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à me suicider. » Je pense que c'est ça qui était en train d'arriver aux Français, c'est-à-dire pour le déni du combat qui nous est livré par l'islamisme, de peur de sombrer dans le désespoir. Et ce déni n'est pas terminé. Simplement, il est aujourd'hui passablement écorné et de plus en plus de sphères de la société, de couches de la société, d'hommes et de femmes politiques, jusqu'au président de la République, acceptent de reconnaître qu'une guerre, un combat, nous désigne comme ennemis. Et ces ennemis s'appellent les islamistes. Et l'idéologie qu'ils professent et le projet politique qu'ils ont, l'islamisme. Ça fait quand même 30 ans que les démocrates arabes, je pense à des gens comme franco-tunisien Abdelwahab Medeb, le franco-marocain Tahar Ben Jeloun, parlent de l'islamisme. Ils en parlent en connaissance de cause, comme ceux que déjà, dans ces pays du Maghreb, les islamistes ont désigné comme ennemis. Et ils nous alertent sur l'angélisme, qui est celui de nos responsables, par rapport à ce combat. Aujourd'hui, on peut dire que bon, nous avons encore une nouvelle preuve du combat qui nous est infligé, nous est imposé. Et simplement, il y a peut-être une première victoire que nous avons remportée sur nous-mêmes, c'est la victoire sémantique. Pour la première fois, un président de la République, et il y a peu, accepte de parler de l'islamisme, et non plus du terrorisme, du communautarisme, du séparatisme. Tous ces termes qui servent à masquer, en fait, le nom de cet ennemi. De peur, toujours la même chose, de stigmatiser, entre guillemets, j'aime beaucoup ce mot, je suppose comme vous, stigmatiser les musulmans. Or, ici, une vérité, c'est que les musulmans, aujourd'hui dans le monde, c'est les principales victimes de l'islamisme et de loin. Une recherche de l'an dernier de la Fondation pour l'innovation politique a dénombré en 40 ans, de 1979 à 2019, les victimes des attentats islamistes. Or, les guerres, plusieurs centaines de milliers de blessés, 167 000 morts. Et la Fondation de préciser, parmi ces 167 000 morts, 92% de musulmans. 92%. S'il y avait une démonstration, celle-là, elle est très simple. Les musulmans sont, de par le monde aujourd'hui, les premières victimes, et de loin, de l'islamisme. Donc, le principe de laïcité, eh bien, c'est un principe qui va protéger, évidemment, l'ensemble des citoyens, et en particulier les citoyens musulmans. En acceptant le principe de laïcité, nous proposons à nos concitoyens musulmans un ensemble de lois qui les protègent aujourd'hui. Mais le point que je voudrais développer, c'est à propos de l'école, évidemment. À propos de l'école et la manière dont l'islamisme pénètre particulièrement l'école. Car aujourd'hui, pour les doctrinaires islamistes, c'est Hugo Micheron dans son livre qui nous éclaire là-dessus. Pour plusieurs centaines d'entre eux emprisonnés dans les prisons françaises, et qu'il a pu interroger, le combat n'est plus militaire. Nous avons perdu une guerre, disent-ils en substance, et il faut préparer la génération suivante. Aujourd'hui, disent-ils, priorité à l'éducation. Et donc, l'école, parce qu'elle accueille la très grande majorité des élèves musulmans, est une cible privilégiée. D'une part, pour demander aux familles musulmanes de la quitter comme un lieu d'abomination, et par ailleurs, pour s'attaquer à ses contenus, à ses professeurs. Je voudrais donner quelques illustrations qui montrent comment l'islamisme pénètre aujourd'hui la jeunesse musulmane de manière très particulière et, évidemment, parmi la jeunesse musulmane, l'ensemble des enfants qui sont scolarisés. À partir de 2015, il y a eu une prise de conscience politique. Cette prise de conscience politique des dangers de l'islamisme a conduit à financer un certain nombre de recherches, de travaux qui sont maintenant disponibles et que nous pouvons utiliser pour donner une vision beaucoup plus objective, beaucoup plus quantifiée des manifestations de l'islamisme, bien plus que nous pouvions en 2004 en allant simplement à une dizaine d'inspecteurs généraux dans une soixantaine d'établissements scolaires. La première alerte, c'est le rapport d'Hakim El-Karoui pour l'Institut Montaigne en 2016. Étude sur les musulmans de France. Hakim El-Karoui nous dit que 25% de ces musulmans ont adopté un système de valeurs qui est clairement contradictoire avec les valeurs de la République, et plus largement les valeurs de la modernité. Mais il note que chez les 15-24 ans, c'est 50%. Il y a là, c'est le premier qui remarque, cette rupture générationnelle qui existe parmi les musulmans entre les jeunes, les très jeunes, les plus jeunes et tous les autres. Et on va avoir évidemment les répercussions de cette pénétration de l'islamisme chez les jeunes musulmans dans nos collèges et dans nos lycées. Sondage de 2018 de l'IFOP pour le Comité national d'action laïque. Jean-Paul Delahaye, auquel vous faisiez allusion à l'instant, il y a beaucoup contribué aux questions de ce sondage. Mais on n'a pas vraiment vu, enfin l'opinion publique n'a pas vraiment vu les signaux d'alerte que comportaient les réponses à certaines questions. Par exemple, échantillon représentatif donc des enseignants de l'enseignement public. 38% des enseignants de cet échantillon ont observé des contestations de l'enseignement de la part d'élèves. Mais le pire, c'est que 37% disent s'être eux-mêmes auto-censurés pour éviter des incidents possibles avec des élèves. 53% en zone d'éducation prioritaire. Et si l'on considère ce chiffre, il est en fait beaucoup plus inquiétant que cela. Pourquoi ? Parce qu'il inclut les réponses des instituteurs de maternelle et d'école primaire qui ont peu l'occasion de se censurer. Il inclut aussi les réponses du professeur de mathématiques qui a peu l'occasion de s'auto-censurer. Ce qui veut dire que dans les disciplines les plus exposées, à savoir l'histoire et la biologie et l'éducation physique et sportive, c'est sans doute des proportions considérables d'enseignants qui aujourd'hui s'auto-censurent par peur, par crainte des incidents. La parole commence à se libérer. D'ailleurs, dans la presse, on a toute une série d'articles et de témoignages qui disent, pour certains, la honte de ces professeurs à ne pas être à la hauteur des attentes de l'école et des attentes de la République. Sortie scolaire, 30% d'incidents. Donc 30% d'enseignants relèvent des incidents, ont été témoins d'incidents. Restauration scolaire, 38%. Intolérance entre élèves, 80%. Pression à l'égard des filles, 62%. Antisémitisme, 31%. Prosélytisme, 28%. On ne peut plus dire aujourd'hui, comme nous l'avons entendu dire lorsque notre rapport a été remis au ministre, ceci n'est valable que dans un tout petit nombre d'établissements. Aujourd'hui, on voit bien que la gangrène islamiste a pénétré massivement l'école. Je voudrais encore donner les résultats de deux travaux. Tout d'abord, une enquête auprès de 11 000 collégiens sur le rapport à la loi des adolescents. C'est une enquête qui a été donc menée par le CNRS et l'Institut des sciences politiques de Grenoble et qui est une enquête européenne qui comporte 7 volets, dont un portait sur la laïcité. Et c'est dans celui-là dont je parle, car pour celui-là, les chercheurs ont demandé la religion des élèves ou l'absence de religion. Et on a là un constat global qui est que les collégiens musulmans ont des comportements, des réponses, des attitudes qui sont en rupture avec tous les autres collégiens, qu'ils soient athées ou qu'ils soient chrétiens. La femme est faite avant tout pour faire des enfants et les élever. 16% des sans-religion, des collégiens sans religion adhèrent à cette assertion. 30% des catholiques, 41% des musulmans. Une loi heurte tes principes religieux, que fais-tu? Réponse, je suis mes principes religieux. Catholique, 34%, musulman, 68%. Et je garde le pire pour la fin. Les espèces vivantes sont le résultat de l'évolution. Il y avait l'autre réponse, c'était Dieu a créé des espèces vivantes. Donc, on donnait des exemples, d'ailleurs, d'animaux, pour que les collégiens se rendent bien compte de la question. Sans religion, 66%, catholiques, 30%, musulmans, 6%. Aujourd'hui, 6% des collégiens musulmans pensent que le professeur dit la vérité. Voilà. Il y a là une pénétration à la fois des normes religieuse, de la loi religieuse et de l'obscurantisme le plus sombre dans la tête des collégiens musulmans. Enfin, une autre confirmation la plus récente de cette évolution très particulière d'une fraction importante de la jeunesse musulmane, c'est le sondage de 2020 pour l'ouverture du procès de Charlie Hebdo. Sondage IFOP. Une question que l'IFOP pose d'une manière un peu traditionnelle dans certaines de ses enquêtes politiques. L'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Oui, non, vous êtes d'accord, pas d'accord. Et là, traditionnellement, c'est l'électorat de droite et surtout d'extrême droite qui répond positivement à cette question. Et là, pour la première fois, alors les musulmans répondent très faiblement oui à cette question, mais ils sont quand même, je crois, 28%. Mais on a les 15-24 ans, là encore, qui répondent à 46% oui. C'est-à-dire, oui, notre religion était compatible avec la vie dans la société française. Et on a là une base objective, en quelque sorte, à ce qu'on pourrait appeler le séparatisme. Il y a là une génération qui se sépare. Alors, on dit de la République, mais c'est beaucoup plus vaste que la République. C'est de la démocratie. Et plus largement, c'est de la modernité, c'est-à-dire des lumières qu'on se sépare. Voilà le constat. Il est effectivement très préoccupant parce que cette jeunesse, évidemment, ce sont les adultes de demain, c'est la société française de demain. Et que, étant donné le dynamisme de la religion musulmane par rapport à toutes les autres religions, je montre dans mon livre que dans une génération, sans doute, la religion musulmane sera la première religion de France, malgré la poursuite de la sécularisation de la société française, mais avec l'effondrement notamment du catholicisme. Et que déjà, d'ailleurs, dans certaines villes et certains territoires, en nombre de pratiquants, voire en nombre d'adeptes, c'est déjà le cas. Donc, la France a un très gros problème devant elle, avec sa jeunesse et donc avec la manière dont l'école accueille enseigne, éduque l'ensemble des élèves et notamment ses élèves musulmans. La seconde partie de mon livre, je ne la détaillerai pas, elle parle, elle évoque les différentes responsabilités. Comment en est-on arrivé là? Et là, il faut évidemment pointer et analyser l'ensemble des responsabilités des hommes et des femmes politiques, bien sûr, ceux qui ont gouverné la France et les autres. Les professeurs, les chefs d'établissement, l'institution scolaire. M. Poulain faisait allusion au chapitre 9 qui s'intitule « Les lycées d'excellence » et qui est un exemple absolument stupéfiant de la complicité, de la connivence qui peut exister entre l'administration de l'éducation, qui a pu exister entre l'administration de l'éducation nationale et les islamistes les plus militants. Car cette femme qui intervient auprès du rectorat pour que la responsabilité de rencontrer des familles soit retirée à ce proviseur, rectorat qui lui confie la tâche de surveiller le comportement du proviseur en question pour signaler éventuellement ses manquements au rectorat, cette femme est suivie par les services de sécurité intérieure. Elle est fichée S. Donc, on voit là vraiment les compromissions, c'est pire que les complaisances, les compromissions d'une partie de notre administration, de peur de faire des vagues, pour calmer le jeu, pour que rien ne dépasse et pour que on ne parle pas voilà, dans la presse, etc. Et surtout pour que ces militants islamistes ne remue pas ciel et terre pour voilà, montrer que l'éducation nationale est islamophobe. Alors, que faire? Est-il encore temps? Une question que l'on me pose souvent. Oui, il est encore temps, et pourquoi il est encore temps? Ouais, deux raisons principales qui débouchent sur des propositions. La première raison, c'est que le combat qui est menée contre l'Occident et contre la modernité et contre les idées de liberté, d'égalité et pour nous en France de laïcité, ce n'est pas un retour de religieux, c'est un combat profondément défensif, nous disent les gens, les chercheurs qui ont étudié l'islamisme et qui ont étudié la genèse de l'islamisme. C'est un combat défensif parce que la création de ces courants islamistes, que ce soit le salafisme ou que ce soit les frères musulmans, se fait en réaction à la pénétration au Moyen-Orient des idées occidentales, des Lumières. Et c'est toujours à ces occasions que se crée une nouvelle interprétation des textes sacrés de l'islam pour appuyer un projet de conquête politique au nom d'un renouveau spirituel. Mais lorsque l'historien Marc Fureau parle précisément, je lui emprunte cette phrase de reconquête politique par un renouveau spirituel, il distingue bien la fin et les moyens. La fin, c'est la conquête politique. Le moyen, c'est l'utilisation de la religion ou d'une réinterprétation plutôt de la religion à cette occasion. Et on voit bien là, à travers ces chercheurs qui nous éclairent, que l'islamisme est une idéologie politique. L'islamisme n'est pas une religion. Et c'est une idéologie politique et un projet politique, et qui vient de loin. Et donc on ne peut espérer le combattre sur la courte durée. Ce sont des marchands d'illusions qui nous disent « il suffirait de prendre telle mesure draconienne, etc. pour éradiquer l'islamisme de notre sol ». C'est faux, bien sûr. Et c'est faux pour une deuxième raison, qui n'est plus une raison de temps, mais une raison d'espace. La France n'est pas le pays, le seul pays, évidemment, où l'islamisme sévit. L'islamisme sévit dans le monde entier aujourd'hui. Et donc, il est totalement illusoire de penser vaincre une idéologie à l'intérieur de nos frontières. Le combat, il est principalement mené, et il a été mené jusqu'à une date assez récente, jusqu'à ce que les pays occidentaux deviennent des pays d'immigration musulmane, mais jusque-là, ce combat a été mené essentiellement dans les pays arabo-musulmans. Et il s'agit bien d'une conquête dans les pays arabo-musulmans. Et si on en attaque les pays occidentaux, c'est par le raisonnement suivant. Les régimes des pays arabes et musulmans sont des régimes qui ne tiennent que grâce à l'Occident. Et l'ennemi principal, le grand Satan, comme disait Khomeini, c'est les États-Unis. Le petit Satan, c'était le chat. Mais il faut d'abord, évidemment, si on veut faire tomber les petits Satans qui sont au Moyen-Orient, il faut s'attaquer au grand Satan qui est l'Occident. Et on a même eu un idéologue qui est Al-Souri, qui a plutôt un stratège qui est Al-Souri, qui a fixé la stratégie qui est actuellement à l'œuvre, en demandant aux immigrés dans les pays occidentaux d'être cette cinquième colonne qui va semer la terreur et dresser les populations d'origine européenne contre les immigrés et contre les musulmans, on va déclencher des guerres civiles qui vont affaiblir les pays occidentaux et qui vont les empêcher de mener les politiques impérialistes qu'elles mènent aujourd'hui. Voilà le raisonnement. Et il est en bonne voie, ce projet. D'après les chiffres, effectivement, une partie de la jeunesse musulmane, une partie de plus en plus importante, est sensible aux sirènes islamistes. Il nous faut donc concevoir aujourd'hui des politiques qui soient des politiques mondialisées, en quelque sorte, et qui soient des politiques de long terme. Ce n'est pas un problème français, c'est un problème global. Ce n'est pas un problème de court terme, il ne peut pas être résolu à court terme, il faut des politiques de long terme. Voilà. Alors, on peut décliner ça à l'échelle de la France, des politiques françaises, et puis on peut décliner ça à l'intérieur sur les politiques scolaires, pour voir comment participer à ces politiques de long terme. Voilà. Et je pense que trois orientations pourraient être présentées. Enfin, je présente trois orientations dans le dernier chapitre de mon livre. Bon, premièrement, il faut endiguer la balkanisation de la société, l'archipélisation, disons-nous Fourquet, de la société, retrouver de la mixité sociale dans les quartiers et surtout dans les écoles, parce qu'on ne peut pas raisonnablement penser intégrer une jeunesse qui vit en autarcie, en complète autarcie et de plus en plus autarcie culturelle et religieuse. On intègre à quelque chose. Et pour intégrer à quelque chose, il faut partager quelque chose. Donc, des politiques de mixité sociale. Pour l'école, plus précisément, il faut former les enseignants. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, de manière très schématique, c'est que les enseignants et une partie de leurs élèves, les élèves musulmans ou une partie des élèves musulmans, vivent dans deux mondes différents. Les enseignants ne savent rien de l'importance, je dirais, totalisante que la religion a dans la vie familiale, personnelle, sociale de leurs élèves, comme instance de normativité de l'ensemble des gestes de la vie, comme en Occident, nos ascendants étaient gouvernés par le christianisme jusqu'à la Révolution française, de la naissance jusqu'à la mort. Eux qui vivent, ces enseignants, dans une société sécularisée, parfois pour certains enseignants, depuis plusieurs générations. Cet analphabétisme religieux fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur classe, ne comprennent pas les réactions des élèves, ils ne comprennent pas la nature de leur contestation. Il faut donc les former, c'est-à-dire les former à la religion comprendre cette religion. Et deuxièmement, comprendre l'objectif, l'idéologie politique qui se sert de cette religion pour parvenir à ses fins. Donc une formation sur l'islam, une formation sur l'islamisme. Et puis, il faut leur donner des compétences pratiques, pas seulement pratiques, à gérer les incidents dont leur classe peut être le lieu. Et on a là, maintenant, on connaît bien ces incidents, toujours les mêmes, concernant des parties du programme, concernant des règles de la vie scolaire, et puis, incidents d'ailleurs dont aujourd'hui, une partie des auteurs sont des parents d'élèves ou sont des personnels de l'éducation nationale eux-mêmes. Donc, il faut savoir gérer ça, et ça s'apprend par de l'entraînement sur des cas réels pour analyser ce qui se passe et trouver des réponses les plus pertinentes possibles. Enfin, troisième volet des politiques que j'évoque dans le dernier chapitre de ce livre, c'est de soutenir les forces démocratiques, les forces de progrès dans les pays arabo-musulmans. Et là, ça passe notamment par de la coopération culturelle, par de la coopération scolaire également. Nous devons marquer profondément notre solidarité avec ces enseignants, avec ces universitaires, avec ces élèves qui sont en première ligne des combats démocratiques. J'en veux pour preuve, par exemple, le livre magnifique de Ala El Aswani, l'auteur égyptien, le romancier égyptien, qui s'intitule J'ai couru jusqu'au Nil. C'est une chronique tout à fait passionnante de la révolution démocratique avortée en Égypte, et on y voit le rôle prédominant et le lourd tribut que payent les universitaires et les enseignants dans cette révolution avortée. Donc, il faut absolument que notre pays, et en particulier notre école, se montre concrètement solidaire avec ce combat. Ce combat est le nôtre et ils sont en première ligne. Merci de votre attention.
Merci Jean-Pierre Aubin pour cet exposé très brillant qui va forcément susciter des prises de parole. Alors, comment voulez-vous faire, Jean-Pierre ? On laisse deux, trois questions se poser et vous répondez, ou vous répondez une à la fois ?
Je préfère répondre une à la fois parce que les questions vont être forcément différentes. Alors on oublie la première, on se connaît à la troisième.
D'accord, très bien.
J'essaie d'avoir des réponses très brèves.
Ok, donc réponse très brève à des questions très brèves également. Donc j'ai vu que Gilles Kounowski avait demandé la parole. Donc Gilles,
on va fixer les règles.
Vas-y Hervé, pardon.
Alors moi j'ai un double rôle, c'est celui d'être gérant du temps, ce qui n'est pas agréable, et de faciliter la parole, qui est plus agréable. Vous écrivez par le chat, vous nous envoyez votre nom et vous me dites « je veux la parole », je note au fur et à mesure les noms et après on redistribuera comme ça. D'autre part, on a devant nous une heure et je ferai le rappel du temps au fil de l'eau. Donc j'ai une première demande de prise de parole d'Agnès Perrin-Doucet. Donc des questions courtes. Agnès Perrin-Doucet.
Oui. Bonjour Jean-Pierre, merci.
Bonjour Agnès.
Grand plaisir de t'entendre. Tu imagines bien sur quoi je vais t'interroger, sur cette question de la formation à l'islam, qui me semble, et à l'islamisme, tu l'as bien dit, je crois qu'il ne faut pas dissocier les deux, parce que sinon on passe à côté. Elle me paraît à la fois intéressante et dangereuse, parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais en novembre 2015, on a eu ensemble un proviseur expliquant qu'il fallait faire venir des imams pour former à l'islam. Donc, la question de la formation d'islam pose la question de qui va faire la formation, première chose, et ensuite de comment, dans les disciplines, parce que ça touche plusieurs disciplines, on va pouvoir retravailler ces connaissances en laïque. Je crois que pour former à l'islam dans les écoles, il faut aussi clarifier